This is scientific, la balado de la science et de la raison.
Épisode 65, pour le samedi 28 août 2010, la cryptozoologie.
Aujourd'hui, je suis donc avec Michel Reynal, qui est l'auteur d'un site web consacré à la cryptozoologie qui s'intitule l'Institut virtuel de cryptozoologie. Bonjour.
Bonjour.
Pour débuter cette conversation, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui vous a amené à vous intéresser, à vous impliquer dans la cryptozoologie ?
Oui, eh bien, en fait, j'ai une formation scientifique universitaire en biologie, en chimie et biologie, et j'ai été d'ailleurs biochimiste pendant 10 ans dans un laboratoire. Et puis, les aléas économiques ont fait que j'ai dû me recycler. Le laboratoire où j'étais avait quelques difficultés financières, donc à l'heure actuelle, je suis cadre commercial à France Télécom, donc l'opérateur télécom en français. Et chargé des nouvelles technologies, ADSL, fibre optique, etc. Mais bon, donc j'ai continué à rester, à l'écoute de ce qui se fait en matière de biologie. Depuis fort longtemps, j'ai été passionné de façon également par le monde animal. Et en 1975, donc j'avais une vingtaine d'années, j'en ai 55 aujourd'hui, j'ai découvert les écrits, les livres, articles de Bernard Velmans, qui est un zoologiste franco-belge, hein, qui est né en 1916 et décédé en 2001, qui est le fondateur de la cryptozoologie. Et tout de suite, ça m'a passionné, d'abord parce qu'il y avait une rigueur méthodologique qui me paraissait indispensable, qui me paraît plus que jamais d'ailleurs aujourd'hui indispensable pour ce genre d'enquête, je dirais, tout en gardant une ouverture d'esprit qui était également intéressante. Donc ça m'a incité d'abord à prendre contact avec Bernard Velmans et à effectuer moi-même des recherches cryptozoologiques, en bibliographie notamment. Et par la suite, j'ai donc publié plusieurs dizaines d'articles, différentes revues, aussi bien des revues de vulgarisation que des revues scientifiques à comité et lecture. Puis ensuite, à partir de 1996, de créer le site internet dont vous avez parlé. Voilà.
Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'objectif du site, nous le présenter, pourquoi vous l'avez créé, les grandes lignes de son contenu ?
Oui. Alors, à l'origine, en fait, c'était d'avoir une revue consacré à la cryptozoologie, mais publier une revue, c'est toujours très onéreux. Et en 1996, avec la révolution d'Internet, on peut faire mieux à la limite avec un site Internet que publier une revue, puisqu'on peut y mettre des centaines de pages, et tout ça pour un prix qui est dérisoire. Donc ça, c'était la première raison, je dirais. La deuxième, c'est que, pour donner une idée de l'ampleur de la documentation que j'ai amassée depuis une trentaine d'années, 35 ans maintenant, oui. Ça représente une centaine de boîtes à archives chez moi et 400 ou 500 livres spécialisés. Donc je voulais commencer également à mettre à disposition d'autres personnes pour la réalité de chercher inutilement, de perdre du temps, etc. Donc je souhaitais rendre disponible au moins une partie de cette documentation que j'ai déjà rassemblée et puis faire part de mes idées sur le sujet. Voilà.
Alors, venons-en vraiment maintenant au cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est la cryptozoologie ?
Alors, historiquement, le mot de cryptozoologie a été créé par justement Bernard Velmans dans les années 50 à partir des racines grecques, donc crypto, grec cryptos, caché, et zoologie, la science des animaux. Donc, littéralement, la science des animaux cachés, très précisément des formes animales pour lesquelles on possède éventuellement des témoignages, des indices matériels, traces de pas, photographies, etc. Mais généralement, donc, on ne possède pas encore de spécimens. L'idée de Bernard Velmans, c'était de synthétiser toute une documentation, toute une série de connaissances préalable à la découverte de certaines légendes, enfin de certains animaux mystérieux, certains légendaires. Alors les plus connus, c'est le Yeti, le monstre Loch Ness, et pas forcément d'ailleurs les plus probables, hein, les plus vraisemblables, bien au contraire. Et d'autres beaucoup moins connus du grand public. Alors, par exemple, l'ours de l'Atlas en Afrique du Nord, et d'autres encore. Alors, moi, personnellement, je me suis plutôt focalisé sur les moins connus. C'est pas tellement le Yeti ou le monstre du Loch Ness qui m'a attiré, c'est plutôt des cas totalement, pour la plupart, totalement inconnus du grand public. Voilà. Donc, par exemple, en ce moment, là, je suis en train de, juste avant que vous m'appeliez, j'étais en train de remettre le nez dans mon énorme dossier sur le Waitoreki, écrit W-A-I-T-O-R-E-K-E, le Waitoreki de la Nouvelle-Zélande. Alors c'est un mammifère aquatique, pas très grand, une cinquantaine, une soixantaine de centimètres long, qui est signalé dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande depuis déjà presque deux siècles, et qui pourrait être une sorte de d'ornithorynque, comme l'ornithorynque de l'Australie, encore inconnu de la science. Donc il n'y a rien de spectaculaire, hein, mais qui est effectivement qui serait malgré tout une découverte scientifique majeure, parce qu'officiellement il n'y a pas de mammifères autochtones en Nouvelle-Zélande. Les seuls qu'il y a seront été amenés par l'homme, comme bon le cheval, le rat, le porc, etc.
Au niveau méthodologique, bon, personne ne conteste que les biologistes découvrent de nouvelles espèces régulièrement. Et la spécificité de la cryptozoologie, comme vous nous l'avez dit, c'est de se baser sur les témoignages humains. Et ça pose un peu le problème de la fiabilité du témoignage. C'est un peu apparenté à d'autres phénomènes fortéens comme l'ufologie. Il y a des témoignages de gens qui voient le monstre du Loch Ness ou qui disent voir des Bigfoot. Est-ce que vous pensez que se baser sur les témoignages pour mener ce type de recherche zoologique est méthodologiquement une bonne approche? Comment vous abordez la chose?
Alors, il faut savoir qu'en zoologie, je dirais la preuve par neuf est simple à obtenir. Hein, c'est pas la peine de chercher bien loin. Il suffit d'avoir un spécimen. Bon, alors pour la cryptozoologie, ça s'est produit déjà des dizaines de fois où une espèce animale a été, entre guillemets, prédite, enfin son existence en tout cas, à partir de rapports, de témoignages, alors, des autochtones, de voyageurs occidentaux, etc. Et puis ensuite, on a eu des indices matériels, alors par exemple, une plume, quelques poils, etc. Et puis finalement, des ossements, et puis l'animal en entier. Ça s'est produit, je répète, hein, des dizaines de fois dans l'histoire de la zoologie. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, et c'est parfaitement efficace. Là où il faut se méfier quand même, c'est justement dans les cas comme le monstre Loch Ness et autres, où il y a à l'évidence un emballement médiatique, où à peine on voit une petite une ride sur les sur le lac écossais, sur la surface du lac, et aussitôt on se persuade, on s'auto-persuade d'avoir vu quelque chose d'extraordinaire, ce qui n'est pas forcément le cas, etc., etc. Alors je suis bien d'accord, il faut être extrêmement méfiant avec les témoignages qui sont toujours fragiles. Ceci dit, il y a des tas de domaines de la connaissance humaine qui sont basés sur des témoignages. L'histoire, entre autres, si on enlève les témoignages dans la recherche historique, c'est pratiquement les trois quarts de la recherche historique qui s'effondrent. Mais même dans une science expérimentale et d'observation comme la zoologie, les témoignages, on y fait appel, sans même parler de cryptozoologie, de manière très fréquente, par exemple avec l'étude du comportement animal, l'éthologie. Énormément d'observations sur le comportement animal sont documentées uniquement par des témoignages. Il n'y a même pas une photo, encore moins un film, pour valider, si je puis dire, telle ou telle observation éthologique. Ça n'est plein, ça remplit les revues de zoologie.
si je peux juste rebondir là-dessus, enfin, la différence serait quand même que là, on aurait un cadre d'observation, oui, un observateur entraîné dans un cadre d'observation.
Voilà, l'observateur est reconnu, pignon sur rue, si je peux dire, enfin, il a un crédit scientifique, etc. En cryptologie, c'est aussi quelquefois le cas. Il y a des animaux, entre guillemets, mystérieux, qui ont été observés par des naturalistes de terrain, voire par des zoologistes. En fait, Bernard Venon distinguait trois sortes de preuves. Les preuves otoscopiques, celles que tout le monde peut voir, notamment lorsqu'on a des indices matériels, des excréments, des plumes, des poils, des traces d'ADN, des taches de sang, etc. Des spécialistes peuvent y travailler dessus. Deuxièmement, les preuves testimoniales, c'est-à-dire les témoignages. Et troisièmement, et ça on l'oublie toujours, on appelle les preuves circonstancielles, c'est-à-dire les indices concomitants. C'est également utilisé d'ailleurs en criminologie. En criminologie, il n'existe pratiquement que les preuves testimoniales et les preuves, c'est-à-dire les témoignages, et les preuves circonstancielles, c'est-à-dire les indices concomitants. On peut, en faisant par exemple, en retraçant l'emploi du temps d'un suspect, on peut définir que il se trouvait tel jour, telle heure, à tel endroit, parce que, je sais pas moi, son mobile a été repéré par une station radio à tel endroit, et donc il y a de fortes chances que ce soit lui le coupable. Eh bien, de la même façon, ces indices concomitants, ces preuves circonstancielles, sont extrêmement importantes en cryptozoologie. Lorsque vous avez un témoignage, et comme je dis, c'est extrêmement fragile. Lorsque vous avez plusieurs dizaines de témoignages qui, avec des personnes qui ne se connaissent absolument pas les unes les autres, d'autant plus que bien souvent c'est sur un territoire relativement grand et sur parfois sur plusieurs dizaines d'années, si c'est pas sur plusieurs siècles. Lorsque vous avez des informations qui finissent par se recouper, à pas forcément dire la même chose, mais quelquefois il peut sortir de l'étude statistique des témoignages et du recoupement des témoignages, des informations nouvelles donnent du crédit parce qu'elles sont compatibles avec ce qu'on connaît de la zoologie, de l'anatomie comparée, de la paléontologie, de l'étude du comportement animal, etc., etc. Je parlais tout à l'heure du cas de l'ours de l'Atlas. Voilà un dossier que j'estime extrêmement solide. Il s'agit donc de l'existence jusque, disons, à la fin du 19e siècle, d'une espèce d'ours de petite taille dans les montagnes de l'Afrique du Nord. On n'a, à ce jour, aucun spécimen, aucune peau, aucun squelette, aucun crâne, rien du tout, pour attester l'existence de cet animal, de cette espèce. Pourtant, il a été signalé depuis la plus haute antiquité, Hérodote, puis par les Romains, puis par les Arabes, puis par les colons français, etc., à de nombreuses reprises. Donc on a des témoignages, et ainsi de suite. Mais si l'on recoupe ces témoignages sur le plan notamment géographique, il est extraordinaire de constater qu'ils coïncident de manière quasi parfaite avec les grottes où ont été découverts des ossements fossiles de ces, justement, d'ursidés, différentes espèces d'ours, en Afrique du Nord, ossements qui ont été découverts après coup, bien après qu'on ait eu connaissance de ces témoignages, bien sûr. Ils n'ont été découverts qu'au cours du 19e et du 20e siècle. Donc il y a là, justement, ce que je disais, une preuve circonstancielle qui, au début, n'est pas, comment dire, enfin, qui ressort justement d'une analyse statistique de tous les témoignages.
Est-ce que vous diriez alors que la mauvaise presse de la cryptozoologie provient de, disons, des grands cas que vous avez cités, quoi, enfin, dont vous disiez vous-même qu'ils sont peu plausibles, comme le monstre du Loch Ness, le Bigfoot, le Chupacabra, que les médias se centrent, enfin, ou en tout cas, où les cryptozoologistes mal informés se centrent un peu trop là-dessus, et c'est ce qui décrédibilise la discipline?
Oui, c'est exact. Bon, pour les journalistes, je dirais, c'est pour la plupart, c'est leur métier, ils font leur beurre, disant que c'est beaucoup plus porteur et c'est le gage d'un plus grand succès de parler du monstre Loch Ness, du Bigfoot ou autre. plutôt que de parler de l'ours de l'Atlas, ça c'est clair. Pour les cryptozoologues, alors là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de label de cryptozoologie, hein, ni en France, ni ailleurs, donc on peut se intituler cryptozoologue à peu près qui veut. J'espère qu'un jour ou l'autre, il y aura un enseignement, ou en tout cas, sans que ce soit un cursus universitaire, mais en tout cas un éclairage universitaire pour ceux qui font des études en zoologie sur la cryptozoologie. Quoique il y a une ou deux universités dans le monde qui font ça à l'occasion, notamment en Amérique du Sud, en Italie, pas en France, curieusement. Donc là, il y a un certain nombre de cryptozoologues ou cryptozoologues autoproclamés qui, eux aussi, versent dans le même travers, c'est-à-dire qui se lancent désespérément en quête du Bigfoot ou du monstre Loch Ness, alors que leur probabilité biologique est faible. Je m'explique. On revient à la fragilité des témoignages et à la méthodologie, hein. Lorsqu'on a un dossier cryptozoologique, après une étude déjà critique, une évaluation critique du matériel, il y a un aspect important à prendre en considération qui est la vraisemblance ou l'invraisemblance biologique de l'existence de la créature supposée. Prenons le cas du Loch Ness. Pendant les premières années, je dirais, de mon histoire cryptozoologique personnelle, donc j'avais 30 ans, j'ai été assez séduit par l'hypothèse de Bernard Wellmans, qui estimait que le monstre du Loch Ness, enfin en tout cas les observations faites au Loch Ness, s'appliquaient à une sorte d'otarie à long cou. Imaginez une sorte de grosse otarie, ou de gros phoque, avec un cou de girafe, ça vous donnera un peu une idée de ce qu'il pensait être le monstre du Loch Ness. Quand on dit le monstre, c'est d'ailleurs totalement idiot. Il est évident que dans l'esprit de Wellmans, il s'agissait de toute une population, bien sûr, de plusieurs dizaines d'individus de cette espèce vivant dans les profondeurs du Loch Ness. Et hautement spécialisé, puisque contrairement aux phoques et aux otaries que nous connaissons, il ne revient pas à terre pour se reproduire. Bon, ça me paraissait relativement cohérent, sauf que depuis, je dirais, les années 80, il y a eu une série d'éléments qui m'ont fait douter. Et le propre d'un scientifique, c'est de douter, y compris de ses certitudes. Donc, ils m'ont fait douter de l'existence, je ne parle même pas de l'identification éventuelle du monstre Loch Ness, mais de l'existence même d'animaux inconnus dans le Loch Ness. En effet, depuis, je dirais, les années 80, 70-80, il y a eu des études extrêmement poussées qui ont été faites sur la biologie du Loch Ness, et notamment qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire la quantité de matière vivante présente dans le Loch Ness. Il se trouve qu'elle est extrêmement faible, et du fait que l'eau du Loch Ness est saturée de tourbe, donc elle est extrêmement trouble, et donc la photosynthèse y est pratiquement absente, ou presque. Et donc toute la chaîne alimentaire est court-circuitée, enfin bon, par ce fait que il n'y a pas de plancton végétal, ou presque pas, et puis donc peu de plancton animal pour manger du plancton végétal, et peu de petits poissons pour manger le plancton animal, et de proche en proche. Donc la quantité de nourriture disponible au Loch Ness pour un grand prédateur tel que serait le monstre du Loch Ness, et donc plusieurs dizaines d'individus, ce qui ferait plusieurs centaines de tonnes de biomasse de monstres, eh bien, tout simplement, il crèverait de faim. Donc, il est physiquement impossible, je pèse mes mots, y compris, là, je suis en désaccord profond avec certains de mes collègues cryptozoologues qui continuent à croire aux monstres, à croire, entre guillemets, parce que c'est pas une question de croyance religieuse, hein, enfin, à admettre l'existence d'un animal inconnu au Loch Ness, là, je suis en désaccord total avec eux. Je pèse mes mots. Donc, pour moi, il est physiquement impossible qu'il y ait un animal inconnu au Loch Ness. Alors donc, ceci dit, il y a des témoignages nombreux venant de personnes qui n'ont pas forcément tous forcé sur le whisky écossais, qui ne sont pas forcément des affabulateurs, dont les témoignages sont extrêmement terre à terre. Bon, voilà, j'ai observé ceci, j'ai vu ça, qui décrivent effectivement une sorte de phoque ou de ou de loutre à long cou, le plus souvent, quand ils ont eu l'occasion d'observer une partie de l'animal. Sinon, la plupart des témoignages c'est rien d'autre qu'une vaguelette, comme je disais, à la surface du Loch Ness. Eh bien, pour moi, ça pourrait s'expliquer par des phoques, qui, de vrais phoques alors, pour le coup, qui occasionnellement pénètrent en Loch Ness. Ça arrive une ou deux fois par an. Ils viennent de l'Atlantique, ils passent par la rivière Ness, et ils pénètrent dans le Loch Ness, et puis ils ressortent quelques heures ou quelques jours après, précisément parce qu'il n'y a rien à bouffer dans le Loch Ness, ou quasiment. Voilà, et simplement, alors j'ai même des photos indubitables d'un phoque au Loch Ness qui s'est carrément, alors lui qui est sorti de l'eau et qui s'est carrément reposé sur la rive du Loch Ness, et puis qui est ressorti, qui a replongé dans le Loch et puis qui a dû ressortir par la rivière Ness et rejoindre l'Atlantique, finalement. Et alors pourquoi à long cours? Eh bien, il y a un autre phénomène qui est connu au Loch Ness, qui est le phénomène de réfraction atmosphérique. C'est un phénomène optique que connaissent tous les physiciens. Hein. C'est une sorte de phénomène de mirage. Vous avez les rayons lumineux qui sont déviés, réfractés, lorsqu'on a un changement brutal de température, voire une inversion de température, comme ça se présente fréquemment au Loch Ness. Le Loch Ness ne gèle jamais, même en hiver, même quand il fait très froid, à cause de son énorme masse qui représente donc une masse d'eau qui fait inertie thermique. Et donc, la surface de la couche d'air qui est au contact du Loch est souvent plus chaude que l'air qui est au-dessus. Et donc, vous avez des phénomènes de réfraction atmosphérique qui ont tendance à déformer et à allonger les images. Alors là aussi, j'ai des photos absolument bluffantes. Hein, un rocher qui ne fait pas de mine, hein, qui fait, je crois, 50 cm de hauteur. Et vous avez l'impression, avec la réfraction atmosphérique, qui fait plusieurs mètres de hauteur à fleur d'eau du Loch Ness. Dans certaines circonstances atmosphériques, bien sûr. Donc on peut penser que la conjugaison de ces deux phénomènes, la présence occasionnelle de phoques et ainsi que de loutres dans le Loch Ness et la réfraction atmosphérique donne naissance au témoignage, voire aux photographies d'ailleurs, que l'on a qui semblent montrer ce type d'animal, et d'où l'interprétation qu'en avait fait Bernard Wellman d'une sorte d'otarie à long cou.
Vous avez beaucoup travaillé donc sur la question des blobs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qu'est-ce que c'est que ces blobs?
Oui, alors à plusieurs reprises, il y a d'énormes masses de tissus organiques, disons, qu'on a découvert échouer sur des rivages divers. Alors l'un de ceux qui a fait le plus couler beaucoup d'encre, c'est un blob, comme on dit, échoué en 1896 sur la côte de Floride, et qu'on a appelé aussitôt le Florida Monster, le monstre de Floride. Alors, les dimensions de cette charogne étaient absolument énormes, hein, plusieurs mètres de long et de large, et elle pesait 5 ou 7 tonnes, enfin, c'est le poids qui a été estimé et qui est très probable au vu des photographies de l'époque. Et à l'époque, donc, un certain docteur Webb, qui était un médecin de Floride, mais qui était passionné de sciences naturelles. Il avait d'ailleurs fondé une société d'études de sciences naturelles dans la ville dont il était d'ailleurs le maire, en plus d'être le médecin. Il avait aussitôt estimé qu'il s'agissait des restes d'un poulpe, d'une pieuvre donc, gigantesque. À l'époque, on avait pensé que les restes qu'on voyait... Alors on voyait donc une sorte de masse globuleuse qui pouvait être la tête et le corps, et des moignons de bras. Donc on pensait que, vivante, cette créature aurait eu des bras de 20 à 30 mètres de long, et donc une envergure de 50 à 60 mètres. Alors, à l'époque, il avait même fait l'objet d'un baptême scientifique, cet animal-là, sous le nom de Octopus giganteus, littéralement le poulpe géant, par le professeur Veril, qui était un spécialiste des céphalopodes, des poulpes et des calmars, et donc il avait publié plusieurs articles scientifiques sur cet échouage, d'après les photographies de l'époque. Et puis quand il a eu des échantillons en main qui lui ont été envoyés par le fameux médecin, il s'est dit, en fait, non, ça ressemble à du tissu de cétacés, et plus particulièrement de cachalots. Donc en fait, j'ai dû me tromper, c'est en fait un fragment de la tête du cachalot, et ce qui ressemble à des bras, soit être des fragments, des lambeaux de chair qui, avec la décomposition, le ressac de l'eau, etc., ressemble par hasard à des fragments de bras. Alors ça, c'était donc en 1896-97. Et bien plus tard, en 1971, et puis dans les années 80, il y a eu des tests biologiques qui ont été faits, qui semblaient aller dans le sens du poulpe. Donc la thèse du poulpe colossal a refait surface au cours de ces années-là. Mais, beaucoup plus récemment, dans les années 90, de nouveaux tests ont été proposés, alors des examens au microscope électronique, etc., qui ont remis en selle la thèse du cachalot, du fragment de cachalot. Et en fait, on en a eu la preuve par neuf en 2003. Donc en 2003, il y a eu un échouage à peu près semblable sur la côte du Chili, ce coup-ci, d'une charogne ressemblant, alors trait pour trait, à celle de Floride de 1896. On pourrait croire, à presque 100 ans d'écart, que c'est un copier-coller sous Paintshop Pro ou quelque chose comme ça, d'une charogne par une autre, n'est-ce pas? Donc, au point de vue aspect, c'est absolument identique. La couleur, la composition, enfin, la composition chimique, etc. Et là, pour celle du Chili, on a même pu conserver les échantillons dans des circonstances extrêmement favorables pour pouvoir faire une analyse d'ADN. Et là, l'identification ne laisse aucun doute. L'ADN montre qu'il s'agit, il y a 100% de concordance avec les marqueurs génétiques. C'est bien, donc il n'y a aucun doute, c'est bien un fragment de cachalot. Et donc, comme il a exactement la même forme que celui de 1896, par voie de conséquence, et là aussi, j'ai changé également d'hypothèse, hein. Enfin, c'est plus une hypothèse, c'est maintenant une certitude. Ce genre de blob, presque immanquablement, c'est des fragments de cachalot. Quand ils ont cette forme de demi-sphère, plus ou moins, avec comme des moignons de bras, eh bien oui, donc le cachalot, en se décomposant, peut prendre cette forme-là. Et donc, ce qu'on appelle le réservoir à spermaceti, une énorme masse de collagène qui se trouve dans la tête du cachalot, qui a sans doute un rôle pour permettre au cachalot des plongées très profondes, mais qui effectivement la particularité d'être très presque imputrescible, hein, de résister à la plupart des enzymes, à la décomposition, etc., ce qui explique que ce genre de charogne, il reste pendant plusieurs mois sur une plage, hein. C'était le cas de celui du fameux blob de Floride, puisque les photographies que j'ai de l'époque, hein, le cépage entre le décembre 1896 et mars 1897, donc pratiquement presque 4 mois, quoi. Et il a pas bougé, hein, pratiquement durant ces 4 mois.
C'est des photos assez impressionnantes, ce genre de... Quand on voit ces objets sur la plage, on peut comprendre que les gens du passé aient vu là-dedans des monstres titanesques.
Tout à fait.
Pour terminer, j'aimerais un peu savoir, est-ce que pour les gens, les auditeurs qui voudraient découvrir un peu plus la cryptozoologie, est-ce que vous auriez l'un ou l'autre ouvrage d'introduction à nous conseiller ou que vous trouvez des ouvrages de qualité?
Ah, alors le problème, c'est que, bon, il y avait bien sûr les ouvrages de Bernard Havelmans, mais ils ont été rapidement épuisés, et on ne les trouve que chez certains bouquinistes à l'occasion, ou éventuellement sur le site peut-être de vente, priceminister.com. Donc les ouvrages, il suffit de taper Bernard Havelmans, c'est Havelmans, H-E-U-V-E-L-M-A-N-S, et on trouve, parce que son ouvrage de base, si je puis dire, sur la piste des bêtes ignorées, 1955, a été rapidement épuisé, mais il s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, et même ces diverses adaptations, rééditions, traductions dans le monde se sont vendues à 1 million d'exemplaires. absolument fabuleux. Donc on arrive toujours à en trouver, bien qu'il soit épuisé depuis. Bon, et puis alors, Charité Bienordonnée commence par soi-même. Je ferai aussi la publicité sur mon site internet où on pourra trouver pas mal d'informations et autres. Voilà. Sinon, même pour terminer, je précise que je me définirai quand même comme, vous l'avez sans doute noté, comme un cryptozoologue critique. Alors, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas être scientifique et objectif si on ne fait pas preuve d'esprit critique. Mais plus encore avec la cryptozoologie. Et donc, ça m'a amené d'ailleurs à démonter moi-même quelques dossiers qui étaient tenus pour solides, y compris par Bernard Wellmans. Je pense, par exemple, on trouvera ça sur mon site internet, le dossier de l'améranthropoïde, littéralement, l'anthropoïde, le singe anthropoïde de l'Amérique, très précisément de l'Amérique du Sud. Alors, c'est pas un Bigfoot, là, c'est un Littlefoot, hein, mais... mais enfin bon, c'était un singe d'apparence anthropoïde, selon la légende, si je puis dire, abattu au Venezuela vers 1920, et dont on possède une photographie. Alors, il y a eu des dizaines d'articles sur ce singe, etc. J'ai réussi à démontrer, après de nombreuses recherches, que toute cette histoire est un canular de A à Z, monté par un géologue belge, suisse, pardon, c'est pas une histoire belge, c'est une histoire suisse, un géologue suisse, François de Loïs, L-O-Y-S, doublé d'une sordide histoire de racisme, d'antisémitisme et de nazisme de la part de celui qui l'a fait connaître, le docteur Montandon, anthropologue suisse, mais qui était... qui s'est illustré, y compris dans l'Holocauste pendant l'occupation allemande, et pour lequel la découverte de la prétendue découverte de la mère anthropoïde était à la preuve par neuf de ces thèses ultra racistes sur les origines de l'homme. On trouvera tout ça sur mon site. Ça allie à la fois la zoologie, la cryptozoologie, l'histoire, la politique, la sociologie, j'en passe les meilleurs. Et la photo, elle, ne montre que en fait un attel commun, un singe d'Amérique du Sud possède une queue, alors que la mère anthropoïde, prétendument, n'en aurait pas eu. Mais comme la photo est prise de face, bien sûr, il est impossible de le prouver. Pas folle la guêpe. Voilà. Et alors que justement sur cette mère anthropoïde, Bernard Wellmans était prêt, au moins jusqu'à une certaine époque, à prendre des paris dessus sur son existence réelle en tant que singe anthropoïde encore inconnu de l'Amérique du Sud. Par contre, il y a d'autres sujets, pas fait que du debunking, hein, pas fait que du démontage. Il y a d'autres dossiers que j'ai contribué à enrichir. Je parlais de l'ours de l'Atlas. Je pourrais citer un autre qui m'est cher, particulièrement cher, je dirais, parce que ça a été mon premier article cryptozoologique en 1980, il y a déjà 30 ans. Ça ne me rajeunit pas. C'est sur un oiseau incapable de voler à Ivaoa, H-I-V-A-O-A. C'est une des îles Marquises. C'est celle où est enterré le peintre Paul Gauguin, ainsi que le chanteur Jacques Brel. Donc tout le monde en a au moins entendu parler l'un ou l'autre. Et sinon de l'oiseau. Et donc un oiseau inconnu de la science apparemment, qui a été signalé jusque dans les années 1950. Quoi. Et qui apparemment a même été peint par Paul Gauguin, puisque justement comme il a passé les dernières années de sa vie à Ivaoa, sur un de ses tableaux il semblerait que figure l'oiseau en question, qui est un peu apparenté à la poule sultane. Et là... justement, quand je disais que quelquefois on arrive à corroborer les hypothèses que l'on fait par des éléments matériels, alors que j'avais émis cette hypothèse en 1980, eh bien en 88, donc 8 ans après, on a découvert effectivement des ossements d'un oiseau incapable de voler à Ivaoa, dont l'île en question, vieux de quelques siècles, donc il ne serait pas impossible qu'il ait survécu jusqu'au milieu du siècle dernier, et qui appartient au genre Porphyrio, qui était effectivement celui qui me paraissait le plus plausible, comme la poule sultane, hein, le plus plausible pour expliquer cet oiseau mystérieux représenté notamment par Paul Gauguin. Donc là, pour le coup, on a au contraire un dossier qui a gagné en épaisseur et en vraisemblance, et qui a même été finalement corroboré par des faits. Voilà. Mais comme je, si je peux avoir un mot en conclusion, c'est la cryptozoologie, pour moi, hein, ma conception, il faut savoir garder la tête froide et l'objectivité, et en même temps faire preuve d'ouverture d'esprit. Voilà. C'est, je dirais que la curiosité et le scepticisme sont, pour moi, les deux moteurs d'un esprit authentiquement scientifique. Quelqu'un qui est pas curieux, je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait dans la science, et quelqu'un qui n'est pas sceptique, je ne vois pas non plus qu'est-ce qu'il y fait. Y compris douter de ses doutes, douter de ses certitudes et douter de ses doutes. Ça va très loin.
Très bien, ce sera notre mot de la fin.
Et le mot de la conclusion.
Ouais.
Merci beaucoup, en tout cas.
De rien, au revoir.
Au revoir.
Want to know how to live skeptically and still have friends? Well, so do I. Join me for Actually Speaking, a new podcast that explores the human side of skepticism. We'll set the science aside and discuss familiar skeptical topics from an interpersonal perspective. Along the way, we'll highlight specific social and communication skills needed to promote critical thinking. Scientific facts are only part of the equation. Let's take an extra step and learn how to share that knowledge effectively. Actually Speaking, a podcast that explores the human side of skepticism, critical thinking, and the skills we need to make it through the day. Visit actuallyspeaking.com to learn more.
Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. Pour ceux qui ont un niveau d'anglais suffisant et qui veulent aller plus loin sur le sujet de la cryptozoologie, je rappelle qu'il existe un excellent podcast consacré exclusivement à ce sujet qui s'intitule Monster Talk. Il est réalisé par Benjamin Radford, Karen Stosno et Blake Smith. Et c'est un des balados sceptiques dont je suis fan. Je pense que c'est un des meilleurs du genre. Il ne discute exclusivement que de cryptozoologie d'un point de vue résolument sceptique. Voilà, c'était Jean-Michel Abrassat. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.
Let's take a trip to examine this common basis of life, a voyage to investigate the molecular machinery at the heart of life on Earth.
All life is related, and it enables us to construct with confidence the complex tree that represents the history of life. Our planet, the Earth, is, as far as we know, unique in the universe. It contains life. Here, plants and animals proliferate in such numbers that we still have not even named all the different species. Darwin's great insight revolutionized the way in which we see the world. We now understand why there are so many different species.
Every cell is a triumph of natural selection, and we're made of trillions of cells. In us is a little universe. Those are some of the things that molecules do. Given 4 billion years of evolution, we are, each of us, a multitude.
Now, how did the molecules of life arise?
It began in the sea some 3,000 million years ago. Complex chemical molecules began to clump together. These were the seeds from which the tree of life developed. They were able to split, replicating themselves as bacteria do.
The secrets of evolution are time and death. There's an unbroken thread that stretches from those first cells to us. The secrets of evolution are time and death. There's an unbroken thread that stretches from those first cells to us. Every cell is a triumph of natural selection, and we're made of trillions of cells. In us is a little universe. Those are some of the things that molecules do. Given 4 billion years of evolution, we are, each of us, a multitude.
There isn't a sharp line dividing humans from the rest of the animal kingdom. It's a very wuzzy line. It's a very wuzzy line. It's getting wuzzier all the time. Find animals doing things that we, in our arrogance, used to think was just human. It's a very wuzzy line, and it's getting wuzzier all the time.
Every cell is a triumph of natural selection, and we're made of trillions of cells. In us is a little universe. Those are some of the things that molecules do. Given 4 billion years of evolution, we are each of us a multitude. Every cell is a triumph of natural selection, and we're made of trillions of cells. In us is a little universe.
Our planet, the Earth, is, as far as we know, unique in the universe. It contains life.
Its continued survival now rests in our hands.